peut présenter ses vœux en tout le mois de janvier. Donc je ne sais pas si j'ai présenté mes vœux à tout le monde, je ne pense pas, mais je vous souhaite une bonne année. Dans la bonne main du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez que les vœux du chrétien, ce n'est pas seulement par tradition, hein. Non, hein, vous êtes d'accord, hein, c'est pas par simple politesse. Bon, c'est pas des mots qui s'envolent. Ils sont des plantes qu'on arrose régulièrement, hein, par la prière, bien sûr. Il y a un prolongement. L'apôtre disait, dans l'épître aux Romains, c'est au chapitre 10, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. » Donc, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que le Seigneur vous bénisse. Et peut-être que quelqu'un, ce matin, a sur son cœur le salut de quelqu'un, une personne. Pour Paul, pour l'apôtre, c'était les Israélites, ses frères. Hein. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ensemble on pourrait le dire. Parce que, bon, moi je parle ce matin, mais vous pouvez aussi parler un peu quand même. Hein. Vous pourriez dire, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé ou qu'elle soit sauvée. Vous avez quelqu'un sur votre cœur ce matin. Vous le dites avec moi ? Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'il ou qu'elle soit sauvée. Amen. Eh bien, il nous reste encore à arroser, à continuer d'arroser. Que le Seigneur nous fasse. Je vous propose une lecture, deux lectures, une dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore? Et si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et puis Galates 4:19, Épître aux Galates, chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Amen. Merci Seigneur. Alors nous avons vu que dans notre première lecture, le premier verset, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Voyons là une évaluation entre les souffrances du temps présent que nous pouvons, bien sûr, et que nous rencontrons tous à un moment donné, et la gloire à famille. Il n'y a aucune comparaison, aucune commune mesure. Amen. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux d'avoir cette espérance. La gloire à venir est infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou même penser. On retrouve d'ailleurs cela dans 2 Corinthiens 4, 17, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel. » Remarquez bien, éternel, un poids éternel de gloire. L'affliction, elle appartient au temps présent, bien sûr, mais la gloire est en rapport avec l'éternité. Avec l'éternité. Les afflictions en durée ici-bas nous réservent des joies merveilleuses et éternelles. Amen. Amen. Eh oui. Et elles nous réservent des joies éternelles, ineffables, qu'on peut même pas exprimer avec des mots. C'est glorieux. C'est vrai que vous le savez, bien sûr, nos œuvres, nos souffrances ne nous sauvent pas. Nous savons bien que le pardon de nos péchés, notre salut, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce qui vous est offerte, qui est offerte à tous ceux qui se repentent et qui croient dans le Seigneur Jésus et dans son œuvre. Mais pour les racheter, en fonction de leur fidélité, en fonction de leur fidélité, il y a dans la gloire, il y a une couronne, il y a une rémunération, il y a une récompense qui nous attend et qui est merveilleuse, qui est bien plus grande qu'on peut se l'imaginer. Alors si sur cette terre les souffrances semblent lourdes quelquefois, je suis d'accord avec vous, on en rencontre, bien sûr, mais sur la balance éternelle de Dieu, elles sont sans proportion, avec la gloire qui doit être révélée pour nous, on pourrait même dire avec la gloire qui doit être révélée en nous, c'est merveilleux ça. Alors verset 22 nous dit, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. On raconte que quand même, dans ce texte, il met quand même d'un côté la création, et de l'autre côté, nous. Oui, pourtant, on fait partie quand même, quelque part, de cette création. Mais il y a une séparation, là, il y a une différence. Je me rappelle, moi, d'un chant, un ancien chant qui disait « Je sais ». Et vous le savez aussi. Je sais que je suis l'un des tiens, et que pour toujours j'appartiens au royaume des cieux. Non plus au royaume d'en bas, nous appartenons au royaume des cieux. Comprends bien cette séparation. Hein. La création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, notre royaume est là-haut, gloire au Seigneur, nous appartenons au royaume des cieux. Je me rappelle qu'un jour, d'ailleurs, l'Esprit de Dieu était descendu sur moi, je chantais ce chant-là, ça m'avait fait du bien, ça m'avait rassuré, ça m'avait donné une assurance extraordinaire. Je sais que je suis l'un des tiens. Amen. Vous aussi, vous le savez. Vous avez besoin de serrer ces choses dans votre cœur, ne pas vous laisser désarçonner par les manœuvres de l'adversaire. Gloire au Seigneur. Alors, le péché d'Adam a eu de terribles conséquences. D'incalculables, on pourrait dire, conséquences sur toute la création. Et on peut remarquer que, d'ailleurs, que lorsque l'être humain choisit de désobéir, choisit le péché, les conséquences sont bien plus catastrophiques qu'il ne peut l'imaginer dans un premier temps. Par contre, quand il choisit le bien, les conséquences sont bien plus bénéfiques qu'on ne peut imaginez, quand on choisit d'obéir au Seigneur, c'est bien plus bénéfique qu'on peut penser. Gloire au Seigneur. Mais, bien sûr, la création, elle soupire, elle souffre. Les douleurs de l'enfantement, elle les souffrira jusqu'à la venue de Jésus-Christ pour son règne millénaire sur cette terre. Bien sûr. Or l'Église fidèle, elle souffre aussi sur la terre. Elle est au milieu d'un monde qui s'enfonce de plus en plus dans le péché, vous le voyez tous les jours, dans la rébellion à Dieu, et avec l'Esprit, avec le Consolateur qui lui a été donné, l'Église, elle dit, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Et je crois que les fidèles sentent au fond de leur cœur que l'enlèvement de l'Église est tout proche. Seigneur, reviens bientôt. Le temps est court pour nous. Le temps est court. Nous avons besoin de semer la parole de Dieu. Or la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Vous voyez, encore une fois, il y a une séparation, une différence entre les fils et filles de Dieu. Nous le sommes. En Jésus-Christ, Amen. Vous êtes d'accord, non? Bon, je craignais que vous ayez un doute. Et la mission des fils et des filles de Dieu, c'est de refléter Jésus sur cette terre. D'être la lumière de Christ. Mais quand Jésus va revenir pour son règne millénaire, il y aura quand même une révélation extraordinaire. 2 Thessaloniciens 10, il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans ceux qui auront cru. Amen. Glorifié dans ses saints et admiré dans ceux qui auront cru. Ça c'est un moment extraordinaire sur cette terre. Mais nous, avant, nous allons être enlevés. Amen. Et nous reviendrons avec le Seigneur. Ce sera un temps merveilleux. Et nous lisons dans la parole de Dieu, par exemple dans le prophète Isaïe, un temps où il est écrit « On n'apprendra plus la guerre » quand Jésus sera là pour son règne. On n'apprendra plus la guerre. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail, quand l'engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Gloire au Seigneur. Pour ce temps glorieux où le Seigneur viendra régner pendant 1000 ans sur cette terre, un règne de paix, cette terre qui a tant connu de misère, tant connu de guerre, connaîtra enfin la paix et le règne glorieux du Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est que les douleurs de l'enfantement? Vous avez remarqué cette expression dans les deux textes que nous avons lus. Bon, celles qui ont enfanté le savent beaucoup mieux que moi. Il n'y a pas de problème. Ils savent que ce sont des douleurs pour la vie. Ce sont des douleurs pour la vie. Mais il y a là, bien sûr, un langage spirituel. Si on prend l'exemple d'Anne, la mère du prophète Samuel, l'épouse d'Elkana, vous lisez ça bien sûr dans le premier livre de Samuel. Anne était dans l'amertume, elle pleurait parce que son désir d'enfant n'était pas satisfait. Elle désirait un fils. Et dans le même temps, on comprend bien que Dieu lui voulait Samuel. Il voulait le prophète Samuel. Alors, on peut dire que le désir d'Anne était en accord avec la volonté de Dieu. Son désir était selon le cœur de Dieu. Et c'est quelque chose qui est important. Et c'est vrai que cela, vous remarquerez, ça ne l'a pas empêché de souffrir en quelque sorte les douleurs de l'enfantement pendant très longtemps, d'une certaine manière, pendant des années. Alors, je ne sais pas si un frère ou une sœur ce matin soupire devant le Seigneur, désire quelque chose de légitime, quelque chose qui est selon le cœur de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, ne te lasse pas. Ne te lasse pas. N'abandonne pas la lutte. Bien au contraire. Reste ferme dans ta foi. Tu as demandé. Tu as prié, tu soupires, le Seigneur est attentif aux soupirs des siens. Tu soupires, tu désires, tu as demandé, tu as reçu la bénédiction. Tu l'as reçu. Et encore un peu de temps, et tu la verras. Ça va bien. Ça, c'est la foi. Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez. Ça va bien. Hein? Vous le verrez pas avant de demander. Demandez, croyez, recevez. C'est le chemin de la bénédiction. Alors, bon, c'est vrai que pour l'être humain, on arrive à un certain niveau de désir spirituel. Cela produit en lui une affliction, une souffrance. Par exemple, Charles Finet disait qu'il ne pouvait plus parler et qu'il ne pouvait plus que soupirer et gémir quand il plaidait avec l'âme devant Dieu pour le salut d'une âme. Vous dites personne, dis donc. Pourquoi Charles Finet en arrivait-il à un point pareil, à gémir en quelque sorte, à avoir les douleurs de l'enfantement? Tout simplement parce qu'il était animé par le Saint-Esprit. On ne peut pas connaître cet état sans être animé par le Saint-Esprit. Nous avons lu que l'Esprit lui-même a percé par des soupirs et exprima. Il n'y a pas le mot pour les exprimer. Mais l'Esprit intercède en nous. En nous, par des soupirs inexprimables. Jésus l'a dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean. Il sera en vous. Amen. Il sera en vous. Alors ne faisons rien pour l'attrister. Nous avons besoin que l'Esprit agisse pleinement dans nos cœurs. Le Saint-Esprit veut nous remplir, bien sûr, nous le savons, de l'amour de Dieu. Il veut verser cet amour dans nos cœurs. Cet amour qui aime la nature même de Dieu, il veut nous remplir cet amour. Et cet amour, c'est aussi une bonne mesure, serré, secoué, qui déborde, qui est appelé à déborder, pour que je passe à dire, pardon, qui est appelé à déborder nos cœurs. Amen. Alors cet amour, cette mesure d'amour débordante, va nous pousser à nous exprimer, à pousser des soupirs devant le Seigneur pour les perdus. Nous ne sommes pas appelés à être indifférents. C'est l'expérience de Charles Finet, l'Esprit le rendait gémissant dans sa lutte pour le salut d'une âme, et la victoire était au bout du chemin, au bout de la lutte. Amen. Est-ce que nous n'avons pas besoin de nous réveiller à ce sujet-là? Alors, nous comprenons bien sûr que la naissance d'un enfant ne se fasse pas sans souffrance, malgré les progrès de la science. Mais il nous faut comprendre que dans le domaine spirituel, il en est de même. Il en est de même. Nous avons besoin de nous engager davantage. Nous aimerions regarder la conversion des perdus sur une chaise relaxe, bien tranquille, sans trop passer de temps, sans trop d'efforts. Oh Seigneur, comme tu es merveilleux. Tous ces gens qui viennent à toi, qui se convertissent, qui se repentent, qui viennent à la croix. Oh, ton œuvre est glorieuse, elle est merveilleuse. Ah ben oui, le problème, c'est que le Seigneur veut se servir de nous. Vous serez, mais, et moi. Ah oui, ah, le problème, c'est qu'il veut se servir de nous, parce qu'il a tranquille à attendre, venez, tranquille. Nous sommes appelés à aller, le Seigneur a dit aller, par tout le monde. Alors, si nous sommes bien disposés, je crois que le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons, quand même, une âme qui se convertit à Jésus-Christ. Quelquefois, c'est une multitude derrière qui va venir avec elle. Moi, j'ai fait une expérience une fois, bon, il y a déjà pas mal d'années, mais j'étais au travail, il y avait un aspirateur là qui était assez désagréable, un jeune. Il fumait à l'époque. Dans les bureaux, c'était assez désagréable, c'était pénible. Il était, disons, incroyant. Il se moquait dès qu'on parlait des choses de Dieu. Voilà. Et, excusez-moi, j'ai raté. C'est ça les vieux. Mais un jour, je me suis retrouvé avec lui, un samedi matin, des permanences tous les deux au bureau. Je lui ai annoncé du bon Dieu. Entre les vieux. Hein? Malgré sa, son attitude d'incroyant. À midi, il m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne suis plus le même. Il est rentré, il a dit à ses fiancés, tu vas pas me croire. Alléluia. Tu vas pas me croire, je crois en Dieu maintenant. Alléluia. Nous sommes appelés à nous engager, vous voyez. Et ce garçon-là, il est venu au Seigneur, il a amené sa fiancée, et le jour de son baptême, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a amené sa mère, sa grand-mère, sa sœur, les voisins, des personnes. Et il s'est marié, il a eu des enfants, bien sûr, ils sont seigneurs aussi. C'est une multitude derrière, oui. Alors, souvenons-nous du Seigneur Jésus. Souvenons-nous du Seigneur Jésus. Nous allons nous en souvenir encore quand nous allons prendre ce bain. Ce bain. Dans son agonie, à Gethsémané, où sa sueur est devenue des grumeaux de sang qui tombent de la terre. Souvenons-nous de sa couronne d'épines. Souvenons-nous des clous, de la lance dans son côté. Souvenons-nous de ses souffrances. Il est allé jusque là pour nous arracher au pouvoir de l'adversaire, au pouvoir du péché. Isaïe a pu prophétiser, après avoir donné, livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Et la postérité de Jésus, elle est infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, bien sûr, Christ a souffert plus que tout autre, les douleurs de l'enfantement. Pour le pardon de nos péchés, et pour nous donner la vie. Alors aujourd'hui, des hommes, des femmes, une multitude, est en route vers l'enfer. Ils vont quitter sur cette terre, aujourd'hui, certains, sans avoir réglé le problème de leur péché avec Dieu. C'est terrible. On ne peut pas être indifférent. Oh, pas de problème, moi j'ai été baptisé, hein, je crois au Seigneur, voilà, j'y vais en réunion, enfin, quand je peux, bien sûr, mais bon, je fais de mal à personne, je suis bien avec tout le monde, ça c'est bien, tout ça c'est bien, mais est-ce que c'est seulement cela que le Seigneur attend de nous? Seigneur, n'attend pas que nous enterrions le talent, c'est une richesse merveilleuse qu'il a mis dans nos cœurs. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu, ne peut pas être émue de compassion quand il voit la misère de ce monde, quand il en voit les ténèbres, quand il voit la misère physique de ce monde, quand il voit la misère morale de ce monde, quand il voit la misère spirituelle de ce monde. Il ne peut être qu'ému de compassion. Il y a un verset dans le livre des Proverbes qui dit au Proverbe 24, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les ! Sauve-les ! Alors, je ne sais pas comment nous nous comportons après avoir prié. Anne, elle a prié jusqu'à ce que par le moyen du sacrificateur et lui, elle ait une réponse de Dieu. Le sacrificateur, hein, Samuel Indiscret, a pu dire, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et c'est écrit. Elle s'en alla, elle mangea, son visage ne fut plus le même. Elle a reçu la parole dans son cœur. Et Anne, la mère de Samuel, a persévéré, elle a mis au monde Samuel, un homme fidèle. On pourrait dire une pointure spirituelle exceptionnelle, Samuel, quand même. Extraordinaire. Je crois que nous avons quelquefois trop tendance à baisser les bras facilement. À n'attendre aucune réponse de nos prières. Alors on a prié, oui. Est-ce qu'on reste dans l'attente de ce qu'on a demandé? C'est bien là souvent le problème. Voyez, prions, intercédons avec ferveur, persévérance, jusqu'à la réponse de Dieu. C'est ça, hein? C'est ça que le Seigneur veut de nous. Élie sur le mont Carmel, vous savez comment il a prié? Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et vous connaissez la suite? Et le feu de l'Éternel tomba. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Nous avons besoin d'être insistants. Le Seigneur nous a donné des exemples dans la parole de Dieu, cette veuve qui importune le juge, etc. Vous connaissez ces choses, certainement, vous qui êtes des lecteurs de la parole de Dieu. Que de prières, finalement. Mais quand on le... je vous parle, mais je me parle à moi, hein, croyez pas. À moi en premier, hein. Que de prières ne sont pas l'objet d'un saint désir ou d'un profond désir. Que de prières sont des prières rituelles, adressées à Dieu sans ferveur, sans ardeur, sans chaleur, sans douleur. Mais, par voie de conséquence, sans enfantement. David disait, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Or, peut-être nous demandons multitude de choses sans y mettre notre foi, c'est pas ça. Nous avons besoin d'y mettre toute notre ardeur, toute notre foi, même si pas grande, ce petit grain de foi suffira. Amen. Gloire au Seigneur, parce que le Seigneur nous fait grâce. Alors avec le secours du Saint-Esprit, avec le secours du Saint-Esprit, je demande une âme, j'y mets toute ma foi, j'y mets toute ma persévérance, j'y mets toute mon ardeur, j'y mets toute ma force, j'en souffre. J'en souffre. Mais j'en souffre. J'en souffre. Mes enfants. Alors il y a un problème, c'est que souvent, nos désirs entrent en conflit avec le temps. Nous avons une illustration flagrante avec la naissance d'Ismaël. Ismaël, c'est le fruit d'une frustration. C'est Sarah, hein, vous savez, viens je te prie vers ma servante, etc. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Et Abraham a écouté la voix de Sarah, bien sûr. Et Ismaël, c'est le fils de l'esclave, bien sûr. C'était pas le fils de la promesse. Tout ce qu'on fait du management ou d'autres formations d'ailleurs ont appris qu'un besoin fondamental, insatisfait, crée une frustration. Et la frustration, c'est une recherche de compensation. Abraham et Sarah désiraient un fils, mais ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Ils désiraient une postérité, mais ils étaient tellement frustrés qu'ils ont cherché une compensation. Par contre, quand le temps de Dieu est arrivé, Sarah, la princesse, a mis au monde Isaac, le fils de la promesse. Alors, il nous faut être bien conscients d'ailleurs que nos calculs humains, ou quelquefois nos combines sentimentales pour annoncer l'Évangile, ne sauraient entrer dans le plan de Dieu. Ce n'est pas d'adhésion, bien sûr, et vous le savez bien, que le corps de Christ a besoin. Hein. Ce sont de réelles, de profondes repentances et de réelles, de vraies nouvelles naissances. Alors, comment les apôtres ont vécu les douleurs de l'enfantement? C'est vrai qu'après la guérison miraculeuse du boiteux à la belle porte du temple, Pierre et Jean ont été jetés en prison. Ils ont été relâchés, on leur a fait des menaces, vous savez bien. Ils ont fait quoi? Ils sont allés se cacher? Pas du tout. On dit c'est trop chaud, faut arrêter. Voilà, cachons-nous, on va attendre que ça se passe. Mais non. Ils sont allés vers les leurs, vers leurs frères et sœurs, en la foi, et ils ont prié. Ils ont prié, et vous rappelez leur prière. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Nous en avons besoin. Hein. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés prend là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. C'est quand même un bon modèle de prière. Nous avons le droit de demander que la parole soit annoncée avec une pleine assurance. Et nous avons le droit de demander que le Seigneur nous donne à nous, à chacun de nous, l'assurance pour l'annoncer. Il le fera par l'Esprit. Il le fera par l'Esprit. Gloire au Seigneur. Dieu répondra par son Esprit. Il serait, pour dire, insensé d'annoncer un évangile dénaturé, dépouillé de puissance, dépouillé des miracles. Ils étaient liés à l'annonce de l'évangile, hein, dès le départ. Et à chaque réveil, on a pu constater que les miracles, les guérisons, accompagnaient la proclamation de l'évangile. Il nous faut toujours le demander. Jésus n'est pas changé, il est toujours le même. Hein? Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien sûr. La semence que nous avons apportée, l'Évangile, la semence est de qualité. Et d'une excellente qualité, au-delà de ce que vous pensez. Il y a quelques années, nous étions rue Le Canuet, à Rouen. À pied, on marchait là, dans la rue, avec mon épouse. Un monsieur qui vient vers moi, il me dit, est-ce que vous êtes monsieur Pixeux? Il dit, oui. Et je vous ai entendu au temple de Darmital, vous avez prêché sur tel sujet. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Alors dans ma tête, j'ai commencé à faire des calculs. Qu'est-ce qu'on raconte? Le temple de Darmital, pour moi, mais ça représente 20 ans, 25 ans. Vous vous rendez compte? Et cet homme-là, à mon souvenir de mon nom, c'était bizarre, enfin bon, comme ça, mais c'est pas important, mais il se souvenait du message de l'Évangile. On est con. Alors mes frères et sœurs, vous avez semé. Attendez, la semence est de qualité. Il y a des cœurs dans lesquels elle est restée, la semence. Elle n'a pas été mangée par tous les oiseaux. Et... Vous ne le voyez pas, bien sûr, mais un jour vous verrez. Gloire au Seigneur. Alors, persévérez. Ne lâchez rien. Gloire au Seigneur. Alors, je veux... On va terminer par ce passage que nous avons lu dans Galates 4:19. Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est pas facile d'élever des enfants. Oula. Les douleurs de l'enfantement, elles durent quelquefois un certain temps. Eh oui. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, nous avons lu. On aimerait que nos enfants, ceux qui élèvent leurs enfants, ils aimeraient bien qu'ils le grandissent comme le Seigneur Jésus. Hein, bien sûr, en sagesse, en stature et en grâce. Mais bon, quelquefois, ils nous ressemblent. Ah, bon, c'est pas toujours parfait. On a des problèmes, mais par la grâce de Dieu, amen. Nous comptons sur sa grâce pour qu'ils progressent, qu'ils grandissent, eux aussi en sagesse, en stature et en grâce. Mais l'apôtre Paul pousse des cris de douleur pour les Galates. Il avait déjà souffert les douleurs de l'enfantement pour les amener au Seigneur. Et là, ils étaient en train de faire naufrage par rapport à la grâce. De faux apôtres les avaient troublés. Ils s'étaient écartés de la grâce qui les sauvait pour revenir à la loi qui les condamnait. Quel dommage. Les douleurs vont se prolonger jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Alors, quel est l'objectif de nos prédications? Quel est l'objectif de nos méditations dans l'Église? On ne peut pas se contenter d'annoncer simplement une doctrine. On ne peut pas se contenter d'annoncer seulement une morale même chrétienne. Sans amour, vous savez, pour les hommes, et sans ce but suprême, que Christ soit formé dans les cœurs, l'Église ne progresse pas et même elle se refroidit. Pour que Christ soit formé dans les cœurs, il nous faut prêcher une personne. Il nous faut prêcher Jésus. L'apôtre le dit d'ailleurs dans 2 Corinthiens 4:5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. La repentance, la conversion à Jésus, nous savons que c'est la ligne de départ. Le chemin, il est en Jésus-Christ. Et il nous faut progresser dans la connaissance de notre Seigneur. Il faut qu'il arrive à se construire en nous. Il faut qu'il soit formé en nous. Il faut qu'il prenne toute la place. Et il faut que je diminue. On est quand même étonné quand on lit l'Épître aux Philippiens. Philippiens 3:10, par exemple. L'apôtre dit... Ainsi je connaîtrai Christ. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Bon, enfin, Paul, qu'est-ce que tu nous racontes? T'as oublié que t'as été enlevé jusqu'au troisième ciel, t'as été ravi jusqu'au troisième ciel, t'as entendu des choses que tu peux même pas répéter? Mais Paul, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu connais le Seigneur? Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de la résurrection. Je crois qu'au fur et à mesure que Jésus se forme en nous, nous allons bien sûr avoir ces sentiments, nous allons les manifester, mais nous allons aussi avoir un désir de plus en plus grand de mieux le connaître et de toujours mieux le connaître. Et plus il va se former en nous, et plus ce désir va grandir. Et inversement, malheureusement, nous contenterons de ce que nous avons. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons besoin de mieux connaître notre Seigneur. Nous avons besoin de mieux le refléter dans ce monde. Il faut qu'il se forme, qu'il prenne toute la place en nous. Gloire au Seigneur. Il nous faut progresser dans sa connaissance et dans la vie d'esprit. C'est notre pays de Canaan ici-bas. C'est notre pays de Canaan ici-bas. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est vrai que nous avons la parole écrite pour nous en nourrir chaque jour. Chaque jour, nous avons besoin de nous en nourrir. Nous avons la prière, qui est la respiration de l'âme. Et chaque jour, nous avons besoin de nous livrer à la prière. Nous avons des réunions, soyons fidèles. Et nous avons des frères et sœurs pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous consoler dans les moments difficiles. Les frères et sœurs. Que de richesse! Non? Que de richesse nous avons! Merci Seigneur! Nous pouvons être reconnaissants, non? Sur cette terre, vous avez des gens qui souffrent. La parole, quelquefois, ils n'en ont qu'une petite partie, ils n'ont pas tout, ils ont... Et quand ils l'ont, vous rendez compte? Alors, bien sûr, ils peuvent prier, mais ils peuvent pas se réunir, certains, c'est très compliqué. Les frères et sœurs souffrent ici-bas. Mais nous avons ici, dans notre pays, des richesses extraordinaires. Soyons reconnaissants. Alors, Seigneur nous a confié, c'est vrai, une grande responsabilité, celle d'enfanter des âmes. Ouais. Est-ce que nous y mettons tout notre cœur? C'est notre mission. Alors, je vais terminer. Nous avons aussi des belles promesses. Par exemple, le psaume 126, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse et une joie débordante quand il porte les gerbes. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Alors, quelquefois, bien sûr, si nous soupirons devant Dieu, si nous souffrons même des douleurs de l'enfantement, c'est une joie éternelle et débordante qui nous est acquise. Gloire au Seigneur. Un dernier texte que je vous lis, c'est 1 Pierre 5,10, que vous connaissez bien certainement. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles.
Amen.